7h23 minutes, on a vu des chiffres qui, disons, peuvent inquiéter à première vue, en tout cas, parce que pour ce qui est du Québec, on a noté lundi plus de 200 cas, 216 pour être précis. C'est la deuxième journée consécutive. On n'avait pas vu ça depuis le mois de juin. On remarque la hausse du nombre de cas dans la région de Québec. Il y a un événement, là, le fameux événement de karaoké. Et aussi, le retour de cas de COVID dans des résidences pour personnes âgées, ce qu'on n'avait pas noté en aussi grand nombre depuis un certain temps. Alors, quand on regarde les chiffres, quelle sorte de conclusion on peut tirer ce matin? J'en parle avec notre invité régulier, Dr. Carl Weiss. Dr. Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Alors, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion quand vous voyez là, deux jours de suite 200 cas? Je regardais ailleurs au Canada, il y a aussi une tendance à la hausse. Ailleurs dans le monde, une tendance à la hausse. Quelle lecture vous faites?
Alors, il y a plusieurs choses à dire. La première chose, c'est qu'à partir du moment où on a de plus en plus de contacts entre les gens, donc par exemple avec le retour à l'école, avec un certain déconfinement, avec le fait que, par exemple, plus de gens travaillent ou de façon physique à leur endroit de travail, donc tout ça mis ensemble, c'était un peu attendu de voir les chiffres monter. Donc, premièrement, les chiffres montent. Deuxièmement, ils montent, mais je vous dirais, c'est quand même pas dramatique parce qu'il faut se comparer à ce qu'on voit dans d'autres pays dans le monde. Si vous prenez, par exemple, certains pays européens avec une population plus ou moins similaire à celle du Québec, je pense à la Suède, la Suisse, la Belgique, la Grèce. Donc, vous voyez ces pays-là, le nombre de cas, par exemple, en Suisse, est plus élevé qu'au Québec. Il est quasiment le double hier. Donc, si on regarde, on n'est pas dans une situation catastrophique, mais on est dans une situation qui nous indique qu'il y a un voyant lumineux orange qui s'allume et qu'il faut, par contre, suivre de façon attentive ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En réalité, je vous dirais, le moment clé va être probablement d'ici le début à la mi-octobre, où on aura une bonne idée de où on s'en va. On aura eu 4 semaines de retour à l'école. On aura eu aussi l'installation au point de vue, je dirais, de la température d'une saison automnale. Il ne faut pas oublier que les virus respiratoires, et la COVID-19 est un virus respiratoire, ont une certaine saisonnalité. Donc, quand on va mettre tout ça ensemble, on verra entre le 1er et le 15 octobre le nombre de cas journaliers. Et si là, on se retrouve à 600, 700, 800, on saura qu'on est vraiment dans une deuxième vague. Si par contre, on reste dans des eaux où on est actuellement, ou quelque chose de similaire, c'est qu'on aura une certaine maîtrise sans avoir une maîtrise complète de la situation. Puis le dernier point, il ne faut pas oublier non plus que c'est très important de regarder les chiffres, mais d'essayer de les analyser plus finement. Et comme vous avez bien dit, il semblerait qu'une grosse partie de ces chiffres-là soit due à une éclosion de la région de Québec. Donc, si, par exemple, vous avez 50 cas reliés entre eux sur les 200 cas, c'est un peu moins inquiétant que d'avoir 50 cas complètement indépendants les uns des autres, parce qu'on sait que ces 50 cas-là complètement indépendants ont probablement infecté d'autres personnes qu'on n'a pas encore trouvées ou qui ne se sont pas faites dépister, etc., etc. Donc il y a aussi cette analyse-là qu'il faut faire. Donc, il faut faire attention. On est dans une zone, on va dire, une lumière jaune, mais on n'est certainement pas dans une lumière rouge.
Je regardais pour ce qui est des écoles. Évidemment, c'est un sujet de haute préoccupation, les parents, le personnel, les profs et tout ça. Il y a des cas, mais sauf erreur, il n'y a pas d'éclosion massive. Il y a certains cas, certains élèves. Bon, mais ça demeure, somme toute, marginal quand on regarde l'ensemble des écoles du Québec.
Ben, tout à fait, parce qu'on a quand même une surveillance beaucoup plus accrue que ce qu'on faisait dans le passé. Il y a des règles qui ont été instituées, hein, donc masque, lavage des mains, distanciation. Donc, il y a un certain décorum, si vous voulez, à l'école. On n'est pas encore rentré dans la saison respiratoire, c'est ce que je vous dis, mais on voit qu'on n'a pas encore des problèmes majeurs dans les écoles au Québec. Et ce qu'on voit, par exemple, dans d'autres pays, ça n'a pas été l'école qui a été vraiment le déclencheur et le vecteur de, je vous dirais, des problèmes importants d'éclosion, mais ça a été plutôt des événements où les gens se sont agglutinés ensemble et ont par la suite entraîné des cas secondaires de façon importante. Alors, l'école, je vous dirais, aujourd'hui au Québec, jusqu'à un certain point, évidemment, c'est quand même un milieu qui est relativement contrôlé. Et je pense que même les enfants ont compris jusqu'à un certain point le message, puisque l'école cette année et l'école l'an dernier, ce n'est pas du tout pareil. Donc, On assiste en effet à pas d'éclosion majeure dans les écoles, mais il va falloir, je vous dirais, pour avoir une réponse plus définitive, attendre la mi-octobre pour voir comment les choses vont se passer.
Mais ce qui m'a frappé dans le cas de Québec, là, puis vous me corrigerez si c'est pas juste, mais c'est de voir qu'un événement, fameux événement du karaoké, évidemment beaucoup de cas positifs reliés aux clients qui étaient là, mais assez rapidement, ça peut toucher par ricochet les écoles. Donc, dès qu'on a des cas qui se multiplient dans la communauté, ce sont les écoles qui sont, je dirais, à assez court terme à risque.
Ben, il faut dire aussi qu'on surveille beaucoup les écoles. Hein. Tout dépend de ce que vous allez surveiller. Si demain matin, on se mettait à surveiller les entreprises, je ne sais pas, de construction de X ou de Y, à ce moment-là, peut-être qu'on dira « Ah, tiens, ces entreprises sont plus affectées ». Mais c'est clair qu'à partir du moment où vous avez une transmission communautaire, tout le monde est potentiellement à risque puisque les cas primaires vont entraîner des cas secondaires, vont avoir des contacts avec des contacts. Vous avez vu aussi qu'il commence à avoir des éclosions dans certains centres de soins prolongés qui sont aussi le reflet probablement de travailleurs de la santé qui ont été infectés de façon différente et qui ont ramené ce virus dans ces CHSLD. Donc là aussi, à partir du moment où vous avez de la transmission communautaire, ça va se répandre rapidement et les écoles sont un petit peu, si vous voulez, c'est le canari dans la mine. Hein. Ce sont nos sentinelles parce qu'elles sont beaucoup surveillées sur et qui nous donnent un indice de l'activité générale dans la communauté.
Qu'est-ce que vous dites aux parents qui vous écoutent ce matin et qui se posent plein de questions? Puis je vais essayer de résumer ça par une question. À quel moment, s'il y a un cas de détecté, par exemple, dans une école, un prof ou un élève ou le parent d'un élève, à quel moment je décide de garder mon enfant à la maison? Est-ce que je veux le faire tester? Il y a des gens qui me disent, on a voulu tester, aller faire tester l'enfant. On nous a dit non, il n'y a pas de symptômes. Comment on gère ça?
Ben, écoutez, je pense qu'il y a des recommandations globales qui ont été émises par le ministère de la Santé. La première chose qu'il faut, c'est ne pas paniquer. C'est-à-dire, s'il y a un cas dans une école, il faut savoir où est le cas, parce que si c'est pas, par exemple, dans la classe de votre enfant, il faut pas paniquer. Deuxièmement, si c'est, par exemple, le contact d'un contact, à ce moment-là, c'est beaucoup moins grave. Donc, si votre enfant est totalement asymptomatique, la même chose. Alors, est-ce qu'on va devoir tester? Ça dépend si c'est juste un cas isolé. Je vous donne un exemple. Supposons qu'il y a un cas dans une classe, on décide de tester toute la classe, et on s'aperçoit que dans la classe, il y a zéro cas secondaire et que personne n'est malade. Bon, c'est probablement encourageant. Vous vous apercevez, par exemple, qu'il y a un cas dans une classe, vous testez toute la classe et vous en trouvez 9. Et parmi les 9, vous trouvez, par exemple, dans la fratrie de ces gens-là, donc des frères et sœurs qui s'en vont à l'école, dans la même école, d'autres cas qui sont positifs, asymptomatiques également. Là, ça devient un problème un peu plus complexe. Mais je pense que dans l'état actuel des choses, c'est de suivre les consignes et c'est de ne pas paniquer en disant « Oh mon Dieu, il y a eu un cas dans l'école de mon enfant, je ne l'envoie plus à l'école tout de suite. » Je pense que ce n'est pas la chose qu'il faut faire sur une base personnelle.
Bon, parlons des hôpitaux, parce que la grande préoccupation, c'est évidemment la capacité des hôpitaux à réagir s'il y a deuxième vague. Et en fonction de l'ampleur de cette deuxième vague, on voit des infirmières quitter. On voit du personnel épuisé. Il n'y a pas actuellement une pression très énorme, mais quand même, le taux d'occupation dans les salles d'urgence est élevé. Avez-vous l'impression qu'on est prêt si jamais ça se détériore?
Ben, je ne peux pas parler pour le réseau, je peux parler pour mon hôpital. Pour mon hôpital, ça fait longtemps qu'on a commencé à se préparer avec une idée qu'il faudrait travailler avec deux silos parallèles. Parce que ce qui va être très important, c'est qu'on ne pourra pas revenir à la situation du mois de mars ou avril 2020, où on a complètement fermé le système, où on a arrêté les salles d'opération, on a arrêté les endoscopies, on a arrêté la radiologie, on a arrêté tout ce qui n'était pas urgent, les cliniques externes ont fermé. On ne peut pas faire ça parce qu'il y a un coût à payer pour l'ensemble des soins de santé à la population. Donc l'objectif, c'est de continuer d'avoir une activité le plus normale possible, en se préparant à avoir deux silos, si vous voulez, en parallèle, un qui s'occuperait des cas de COVID hospitalisés et deux, celui qui continuerait de s'occuper du travail habituel et des soins de santé qu'on doit donner. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, je vous dirais aussi à souligner, c'est que on est plus expérimentés, je dirais, sur la façon dont on traite les cas de COVID. On a appris beaucoup, que ce soit des cas hospitalisés pas aux soins intensifs ou hospitalisés sur ventilateur aux soins intensifs. On a aujourd'hui plus de connaissances et une meilleure façon de traiter la COVID-19. Donc ça, c'est un point important à souligner. On n'a pas de médicaments miracles, mais on a des médicaments qui peuvent nous aider. Donc il y a un ensemble de facteurs où je vous dirais, j'espère qu'on sera capable de mieux maîtriser la deuxième vague, si deuxième vague il y a. Et enfin, le troisième point, la dynamique de l'épidémiologie de cette vague-là va être différente de la première, parce que là, on voit que ça touche beaucoup plus une population plus jeune, plus en santé, donc moins à risque de compliquer. Mais si on a un très haut nombre d'individus malades, oui, on aura quand même des gens qui vont devoir être hospitalisés. Et il y a aussi les conséquences des contacts, comme vous l'avez bien souligné, des gens qui, eux, sont pas très malades, mais qui vont en infecter d'autres. Mais globalement, je pense que le message important, c'est que, oui, la préparation est importante au niveau des hôpitaux, mais on ne pourra pas retourner à l'étape précédente de fermer complètement le système aux activités de traitement de cancer, de chirurgie, etc.
En terminant, le point un peu sur les recherches, vous parliez de médicaments. On a vu aux États-Unis le président qui nous promet un vaccin à la veille de l'élection, là, avant novembre. Je disais ce matin qu'il y a des chercheurs qui ont de la difficulté à avoir des résultats probants. On en est où, là?
Ben, écoutez, dans les vaccins, ça avance, mais encore une fois, il ne faut pas brusquer les choses. Il faut que les vaccins soient sécuritaires, donc il ne faut pas que ça devienne un enjeu électoral, la première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne les médicaments, on n'a pas de médicaments miracles à date. Ce qu'on a, tous les médicaments qui sont sortis sur le marché, à part, je vous dirais, celui qui s'est montré le plus efficace, c'est un dérivé des stéroïdes, hein, c'est de la dexaméthasone, qui est un stéroïde comme de la prédnisone, si vous voulez, et qui est un vieux médicament qui a montré, je dirais, le plus d'efficacité dans le système. Donc, on n'a rien de miraculeux. On a des médicaments en développement, mais c'est dans quelques années. Alors, je vous dirais, en ce qui concerne les médicaments, il y a des avancées, mais il n'y a pas une percée majeure. En ce qui concerne les vaccins, de façon réaliste, et je pense que tout le monde qui connaît le domaine va être d'accord là-dessus, on n'aura rien avant quelque part en printemps, je dirais, fin de l'hiver 2021.
Merci beaucoup, Dr. Weiss. Bonne journée.
Au
revoir, Dr. Carl Weiss, microbiologiste, spécialiste des maladies infectieuses. Il travaille à l'hôpital général juif de Montréal. 7h36.